Bonjour à tous. Avec le beau temps qui arrive enfin, revient l'envie de flâner en Mayenne et de découvrir un peu notre département. Justement, nous recevons aujourd'hui Jacques Naveau, auteur d'un livre sur le patrimoine de la Mayenne. Jacques Naveau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes toujours plongé dans l'histoire de la Mayenne, où vous êtes né d'ailleurs, puisque vous êtes Lavallois, n'est-ce pas?
Tout à fait.
Vous avez fait vos études au lycée Ambroise Paré, puis vous avez été à l'université de Rennes. Vous avez obtenu un DEA d'histoire, option archéologie, déjà. Vous avez été enseignant à Rennes, en Algérie, puis à Laval. Vous avez aussi été président de la Société d'archéologie. Vous avez fait des recherches sur Jublin, sur tout le département. En 1988, vous devenez archéologue départemental jusqu'en 1997. En 2001, vous devenez chef du service départemental du patrimoine. Aujourd'hui, vous êtes retraité, domicilié dans le très beau village de Parnay-sur-Roc, dont je crois d'ailleurs vous avez étudié une maison médiévale.
Oh, j'ai fait plus que l'étudier puisque j'y habite.
Mais vous la connaissez bien.
Mais je la connais bien, j'ai la chance d'avoir une maison à pan de bois, ce qui est rarissime dans un village de la Mayenne.
Tout à fait. Donc vous publiez, et c'est l'occasion de notre rencontre, un livre où vous avez recensé 500 sites mayennais à découvrir. Ils sont traités par ordre alphabétique. Cela va du menhir d'Ahuillé, la pierre du Fou, jusqu'à la stèle des Trois Poiriers à Voutré. Et ce guide comporte de nombreuses photos que vous avez prises vous-même. Mais ce livre que vous avez rédigé, est-ce que c'est un livre d'histoire ou un guide touristique?
C'est les deux. C'est un guide touristique dans le sens que c'est un livre qui s'adresse à un public très large, qui est fait pour être mis dans la poche, d'ailleurs son format y invite. C'est un livre qui doit vous accompagner quand vous allez vous promener en Mayenne un dimanche après-midi.
Mais c'est un livre sérieux ou agréable?
Mais c'est aussi un livre sérieux, voilà. Mais en même temps, c'est un livre d'historien, archéologue. Ça m'a permis de réexaminer tout un tas de monuments qui n'avaient jamais été publiés ou sur lesquels les publications étaient trop anciennes. Et donc, il y a aussi une partie, franchement, de travail historique, mais enfin, écrit de telle façon que l'espère...
c'est pas l'histoire de la Béhangou.
C'est pas l'histoire de la Béhangou, je l'espère. C'est compréhensible par tout un chacun.
Voilà, c'est un format pratique, il est bien illustré, il est pas trop cher, 15 euros, c'est à la portée de la plupart des bourses. Mais est-ce que avec cet ouvrage-là, il s'agit d'inciter les Mayennais à découvrir le département?
Oh, certainement, ça s'adresse d'abord aux Mayennais, parce que non seulement je suis persuadé que les Mayennais connaissent pas tout en Mayenne, mais moi-même, j'ai découvert tout un tas de choses en faisant ce livre, tout un tas de monuments, de petites églises que je ne connaissais pas ou que je ne connaissais que de nom. Alors, je pense que tout un tas de mes concitoyens sont comme moi. Ça s'adresse d'abord aux Mayennais, et puis ça s'adresse aux invités des Mayennais. Hein, quand vous allez recevoir les cousins et les cousines un dimanche et vous ne savez pas quoi faire l'après-midi, eh bien, prenez le livre et allez donc faire un petit tour dans les communes voisines et vous allez découvrir tout un tas de patrimoine. Et ça s'adresse aussi, bien entendu, aux touristes qui viennent de l'extérieur, aux gens qui veulent découvrir la Mayenne, qui s'imaginent qu'il n'y a rien en Mayenne, on va passer très vite pour aller en Bretagne, et qui d'un seul coup se disent « mais non, mais pas du tout, ça mérite quand même qu'on y passe quelques jours ».
Alors, bien sûr, on connaît les lieux les plus célèbres. Enfin, évidemment, il y a d'abord les villes, Laval, Mayenne, Château-Gontier, avec leur passé historique, mais aussi Entrammes, Jublin, Sainte-Suzanne, Lacé. Mais vous décrivez aussi des mottes, des croix, des chapelles, des stèles, des chemins. Finalement, vous êtes descendu assez bas, si j'ose dire.
J'ai voulu couvrir le maximum de choses dans le département, le maximum de territoires, et puis surtout, précisément, ne pas toujours donner la priorité aux grandes villes ou aux grands sites du style Jublin, Sainte-Suzanne. Ces sites-là sont connus, il y a de la documentation qui est facile à trouver. En revanche, il est beaucoup plus difficile de trouver de la documentation sur l'église de Bernay, sur l'église d'Ambert, sur tout ce petit patrimoine, enfin petit, ce patrimoine rural qui est moins célèbre et pourtant tout aussi intéressant à visiter.
Mais alors, choisir 500 sites, c'est quand même pas... Est-ce que c'est pas un choix un peu subjectif?
Mais bien sûr, c'est subjectif et c'est une subjectivité qui est voulue et je n'ai aucun complexe à cela. Le choix, il s'est fait quand même sur des critères qui n'étaient pas tout à fait subjectifs. Le premier critère étant que les gens ne se cassent pas le nez. Donc, il faut que ça soit un patrimoine visible de l'extérieur, visible depuis le domaine public et... quand c'est possible, dans lequel on peut entrer. Bon, ça déjà, ça a évidemment servi de filtre et ça a éliminé un certain nombre de monuments parce que, bah, tout simplement, on peut pas y rentrer et pour des raisons tout à fait normales parce que ce sont des lieux de vie. Et alors le chiffre de 500, bon, alors il y a ma subjectivité, mes goûts personnels et puis mes compétences tout simplement. Je suis pas compétent en tout et donc j'ai parlé bien sûr de ce dont je sais le mieux parler. Et je me suis rendu compte alors que j'arrivais, mais c'est un peu un hasard quoi, aux alentours de 500. Quand j'ai fait le bilan, bah, j'étais à quelques unités près aux alentours de 500. Donc je me suis dit, allez, on va rogner quelques petits angles et puis ça va faire 500, c'est quand même un chiffre sympathique quoi, un chiffre rond. Donc c'est comme ça que on est arrivé à 500.
Mais alors ce qui est étonnant quand on lit votre ouvrage, c'est que finalement, on voit assez peu de châteaux. Or, on dit que la Mayenne, c'est le département de France qui possède le plus de châteaux habités.
Et voilà, habités, vous avez dit le mot, ils sont habités. Ben, écoutez, les gens qui habitent ces châteaux n'ont pas forcément envie que des gens viennent se promener chez eux, c'est tout à fait normal. Alors, il y a plusieurs cas, il y a des châteaux dont on peut s'approcher, et ceux-là, je les ai indiqués comme visibles de l'extérieur, j'ai donné des indications. Il y a des cas où les propriétaires, d'ailleurs, autorisent que l'on entre dans le parc. Je pense au château du Rocher, qui est une merveille de la Renaissance en Mayenne. Et bien, le propriétaire, très, très aimablement, autorise que les gens viennent jusque à la grille, disons, enfin, très près du château. Et puis, il y a des châteaux qui vraiment sont ouverts à la visite, du style, bien sûr, du château de la Saye. Et il y a aussi ceux qui ne sont ouverts que temporairement au moment des journées du patrimoine. Alors, ceux-là, j'ai voulu les indiquer avec des notices plus courtes, parce que les gens auront des indications au moment des journées du patrimoine. Je les ai indiqués, mais sans inciter les gens, bien sûr, à venir sonner à la porte, parce que, encore une fois, ce sont des lieux de vie, les gens qui y habitent ont droit, évidemment, à ce qu'on respecte leur vie privée.
Alors, vous partez de la préhistoire, puisque vous parlez du site paléolithique de Sauges, pour arriver jusqu'à l'époque contemporaine, la salle polyvalente de Laval, ou l'église de Saint-Pierre-la-Cour, mais là-dedans, dans ces 500 sites, est-ce qu'il y a une unité? Peut-on dire que le patrimoine culturel de la Mayenne a des traits communs, une certaine unité?
Il y a des choses qui sont spécifiques à la Mayenne, tout à fait, et c'est ça que j'ai découvert en faisant ce travail. D'abord, une première spécificité de la Mayenne, c'est l'abondance relative du patrimoine très ancien. Quand je dis relatif, c'est relativement aux autres départements français, et tout particulièrement au département du Grand Nord-Ouest de la France. La Mayenne est spécialement riche en monuments très anciens, je veux dire antérieurs à l'an 1000, si vous voulez. Alors, vous avez parlé de Sauges, il y a l'Antiquité, Jublin, il y a de très gros sites, Jublin, Entrammes, qui sont des sites de grande importance. Il y a des sites du Haut Moyen-Âge, comme le Château de Mayenne, qui sont véritablement des choses qu'on ne voit pas partout. Hein. Et le Château carolingien de Mayenne, il y a 5 bâtiments, à peu près, de cette importance-là dans toute l'Europe. Quoi. Donc, ça, c'est une spécificité de la Mayenne, c'est la conservation de ce patrimoine très ancien. Et puis, alors, j'ai chercher aussi à voir quel était un petit peu le portrait type, par exemple, d'une église mayennaise. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui revenaient sans arrêt. Les églises mayennaises, la moitié des églises mayennaises sont anciennes. Un peu plus que cela, si vous voulez. On peut y ajouter encore 12% d'églises anciennes, mais qui ont été très modifiées au 19e. Mais on peut dire que la moitié des églises mayennaises sont dans un état ancien. Eh bien, dans ces églises-là, plus de 60% de ces églises ont une nef romane, par exemple. Mais en revanche, le chœur n'est pas roman, parce que le chœur a été reconstruit à l'époque gothique, à l'époque où ces églises ont été données à des abbayes, des moines y ont été installés, c'était des prieurés, donc 4-5 moines étaient installés, ils avaient besoin d'un équipement pour cela, et on a reconstruit le chœur à l'époque gothique. Et puis plus tard, on a ajouté des chapelles latérales, ça s'est fait cela entre le 15e et 18e siècle, avec un pic dans la seconde moitié du 16e siècle, qui a été une grande période de construction, d'enrichissement du patrimoine de la Mayenne. Voilà. Donc, vous voyez, une église, c'est pas un bâtiment de telle date, c'est un bâtiment qui vit. On pourrait dire la même chose d'un château, on pourrait dire la même chose de beaucoup de bâtiments publics. Ce sont des bâtiments que chaque époque ajoute quelque chose.
Alors, justement, vous parlez des bâtiments qui vivent, mais ces monuments dont vous parlez dans votre guide, dans quel état sont-ils? Comment est-ce qu'on peut les faire vivre? Est-ce une question d'argent? Est-ce que c'est une question de bénévolat?
Les deux, certainement. Le bénévolat tout seul ne peut rien. Hein, il faut des moyens. La restauration, ça veut dire faire intervenir des ouvriers spécialisés, utiliser des techniques qui sont pas forcément les moins chères. On va pas restaurer avec du ciment et avec des parpaings, bien entendu. Donc, la restauration a un coût. Il faut des moyens. Mais je me rends compte aussi à quel point le bénévolat est important. en particulier dans le domaine de ce qu'on appelle le petit patrimoine, c'est-à-dire le patrimoine de petit volume, si vous voulez. Par exemple, les chapelles. On a tout un tas d'exemples en Mayenne de chapelles qui étaient à l'abandon, si ce n'est en ruine, et qui ont été sauvées grâce à un groupe local de gens qui se sont passionnés pour cela. Je pense à la chapelle de Doucet à Jublin, par exemple, qui est un très bel exemple de ce que peut faire le bénévolat quand il se mobilise. Alors, les gens n'ont pas payé ça de leur poche, ils en auraient bien été incapables, mais leur mobilisation a permis autour d'eux alors d'attirer des moyens des collectivités territoriales notamment.
Oui, moi je connais par exemple aussi des bénévoles qui assurent des permanences dans les églises et qui permettent aux gens que l'église soit ouverte et que les gens visitent.
Alors ça, c'est fondamental aussi, et ça a été une de mes grandes surprises, parce que quand je voyage beaucoup, mais beaucoup pour voir du patrimoine, je vais dans le Maine-et-Loire, le long de la Loire, je vais en Sarthe, et la plupart du temps, je me casse le nez devant une église fermée. Et on a de très belles églises romanes, mais frustration, on ne peut pas y rentrer. Et ma grande surprise, je dois le dire, ça a été de voir le pourcentage d'églises ouvertes en Mayenne. Il y en a plus des deux tiers, certainement, hein, peut-être les trois quarts, mais au moins les deux tiers, et ça a été une très agréable surprise de m'en rendre compte. Et comme vous le dites, cela est dû au bénévolat, c'est des gens qui acceptent la corvée le matin d'aller ouvrir, de refermer le soir, qui acceptent aussi de prendre quelques risques, hein, de la part des municipalités. On sait très bien que ouvrir une église alors qu'on va pas pouvoir mettre un gardien en permanence dedans, ça peut occasionner des risques. Ça nécessite aussi d'aller sceller des statues, par exemple, hein. Mais bon, c'est quand même un état d'esprit d'ouverture que je trouve extrêmement agréable, important, et qui permet que ce patrimoine ne soit pas définitivement perdu, clos ou réservé seulement à des spécialistes.
Alors, une dernière question, Jacques Naveau. Parmi ces 500 sites que vous avez découverts, quel est votre coup de cœur ?
Mes coups de cœur.
Je ne parle pas de Jublin, bien sûr.
Justement, j'allais ne pas en parler précisément parce que vous m'attendiez là. Mais non, au contraire,